chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Dans le château du Roi Soleil, on commémore la mort de Louis XIV et les fêtes du tricentenaire sont somptueuses. Concerts, bals, représentations théâtrales, récitals, sérénades et grandes eaux musicales se bousculent sur le calendrier du Festival 2015 à Versailles. Roméo et Juliette sous les étoiles. Les ballets de Monte-Carlo reprennent devant l'Orangerie de Versailles la création de Jean-Christophe Maillot. La tragédie des amants de Vérone hante Maillot. Parmi les œuvres de jeunesse commises avant qu'il ne prenne la direction des ballets de Monte-Carlo, voici 20 ans, figure un Juliette et Roméo, présenté en 1986 au Théâtre de la Ville. 10 ans plus tard, Jean-Christophe Maillot a signé une nouvelle version. Elle a fait le tour du monde et arrive aujourd'hui à Versailles. « Ça m'amuse, dit-il, de voir que ce Roméo et Juliette qui tourne partout dans le monde avait été présenté dans sa version première au Théâtre de la Ville en 1986, avec la particularité que l'on connaît. Une version intitulée « Juliette et Roméo » montée en flashback qui faisait la part belle aux femmes sur une création musicale de Michel Beuret, décor et costumes de Jean Maillot. En fait, si ce n'est la musique de Prokofiev sur laquelle j'ai finalement repris le ballet, la structure dramaturgique créée à Tours n'a pas bougé, dit Jean-Christophe Maillot. La pièce est tendue, comme souvent les ballets de Maillot. C'est que le chorégraphe ne se contente pas de raconter les histoires, il les interroge. Ici, la pièce est vue par le biais de l'insondable frère Laurent, une belle âme où flambe le tourment. Cet homme, né pour détruire la haine entre les Capulet et les Montaigu, soutient les amants, ourdit leur mariage et se trouve désemparé devant l'épilogue. Tout le Roméo de Maillot se déroule comme ce flashback de frère Laurent revoit le drame. Il y a au début dans l'histoire d'amour de Roméo et Juliette une telle légèreté. Ils ne bravent pas d'interdit, ne se prêtent pas à être maudits. Ce sont des enfants qui, comme tels, jouent l'innocence et parient sur tous les possibles. La haine ne les effleure même pas. Tous les Capulet et Montaigu de 16 ans partagent les mêmes jeux bravades de bandes qui jouent la véhémence sans vraiment y croire. Meurtriers, eux, s'ils le sont, c'est vraiment malgré eux. Juliette capte l'attention. L'amour la ravit, entière et absolument. À la création, c'est Bernice Coupeters qui captait tous les regards dans ce rôle. Maillot chorégraphie dans l'urgence de la passion. Il mêle danse contemporaine et pointe et s'attarde sur les procédés de narration cinématographique. Arrêt sur image, ralenti, scène saisie de trois quarts plutôt que face au public, diagonale. L'élan des personnages principaux se répercute auprès du petit groupe qui les entoure. La scénographie d'Ernest Pignon-Ernest rend lisible la tragédie dans une lumière épurée. Un escalier suspendu entre ciel et terre, des portes, les tenues fluides de Jérôme Caplan. C'est un Roméo et Juliette capital, sans mignardise et sans accessoires, tout entier centré sur les battements de cœur. Autour de Bernice Kopitters, Maillot avait voulu créer un réseau de femmes. Lady Capulet, Rosalinde, la nurse mène le drame sans pouvoir le contenir. Parques impuissantes, elles incarnent dans l'esprit de Frère Laurent les figures de la tragédie. La première version du ballet signée par Maillot ne s'appelait-elle pas Juliette et Roméo ? Anna Nebretko dit du château de Versailles, ce lieu est synonyme de beauté et de magie. Pour sa première venue à Versailles, la soprano russe se produira dans les jardins de l'Orangerie le 4 juillet, lors d'un concert de gala aux couleurs de l'opéra italien avec l'Orchestre national d'Île-de-France. C'est dans le luxueux écrin de l'Orangerie du château et de ses jardins que la diva russe se produira pour la première fois à Versailles entourée de trois de ses plus fidèles partenaires, la mezzo du Mariinsky Ekaterina Gubanova, le ténor familier du Metropolitan de New York, Alexander Antonenko, et la basse, Ildar Adrazakov. La soprane illuminera de son timbre de feu couvé sous les glaces de la Neva les pages les plus bouillonnantes de l'opéra italien du bel canto jusqu'au vérisme. Question du Figaro. Que vous évoquent les ors de Versailles et de ses jardins ? En tant que russe, je connais surtout Versailles par les livres d'histoire. Le tsar Pierre le Grand avait été conquis par la magnificence de ce château où il puisa son inspiration pour ce qui deviendrait le palais de Peterhof, surnommé le Versailles russe. Pour nous, ce lieu a donc été toujours synonyme de beauté et de magie, un temple de l'art où chaque enfant de notre pays brûle d'aller un jour. Avoir la chance de m'y produire en concert pour ma première visite, qui plus est à l'occasion d'un festival où l'on célébrera Louis XIV, est un rêve éveillé. Le programme couvrira toute l'Italie du bel canto, de Verdi au vérisme. C'est un répertoire que tout chanteur d'opéra rêve d'aborder. Aujourd'hui, je sens que je suis en mesure d'arpenter ces terres et d'en apprécier toute la saveur. Tremante, vissi d'ignoto amore.
universo intero, misterioso, misterioso la tema, croce, croce delizia, croce delizia.
Thierry Illerito lui pose la question. Pour ce gala, vous ne serez pas seul en scène, mais entouré de 3 autres chanteurs. Pourquoi ? L'idée était d'offrir au public quelque chose de différent des récitals qu'ils peuvent entendre d'ordinaire dans les salles de concert. Plus que de simples airs, les duos, les trios et même un quatuor sont susceptibles de servir au mieux la puissance dramatique de l'opéra italien. Mes amis sont merveilleux, je les admire et j'ai eu l'occasion de me produire avec eux à de nombreuses reprises. Le Verisme y tiendra une place de choix. Quelle est aujourd'hui votre relation à ce répertoire ? C'est un répertoire que tout chanteur d'opéra rêve d'aborder, mais pour lequel j'ai voulu me montrer patiente, faisant attention à ce que ma voix soit suffisamment mature et préparée avant de m'y consacrer pleinement. Aujourd'hui, je suis en mesure d'arpenter ces terres et d'en apprécier toute la saveur. Voulez-vous nous en dire un peu plus sur les airs que vous chanterez ? Je tiens à garder l'effet de surprise, mais comme mes concerts sont de plus en plus diffusés à la télévision et que je n'aime rien moins que la redite, il y aura beaucoup d'œuvres dans lesquelles le public ne m'a jamais entendu. Je voue évidemment une grande admiration aux sopranos du passé, que j'écoute autant que j'écoute celles d'aujourd'hui, mais je suis incapable d'en choisir une plutôt qu'une autre. Parmi vos dernières prises de rôle, lesquelles furent les plus éprouvantes ? De façon générale, je chante des rôles suicidaires depuis mes débuts, de Roulant et Ludmilla, de Glinka à Don Giovanni, en passant par la Traviata, Manon, Roméo et Juliette, Lucia di Lammermoor, Anna Bolena, Macbeth et tant d'autres. Je ne pourrais dire lesquels furent de plus grands défis, mais tous sont extrêmement exigeants. Lorsque je réécoute certaines de mes interprétations, je me demande comment j'ai fait pour chanter une partition aussi difficile. Ces rôles sont aussi insensés que détonnants. Pop, 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 pop Fagioli, lui, est face au mythe Caffarelli. À l'Opéra Royal, le contre-ténor argentin rend hommage à l'un des plus illustres castrats de l'école napolitaine et grand rival de Farinelli. Difficile de trouver meilleur emblème de l'école napolitaine des castrats que la figure de Caffarelli. Celui qui s'était autoproclamé meilleur que Farinelli, déclarant devant le roi de Sardaigne en personne qu'il valait deux fois son rival, cristallise par son répertoire acrobatique la virtuosité surnaturelle que l'on attribuait à ses chanteurs et qui fit leur réputation dans l'Europe entière. À sa manière, il incarnait aussi le premier divo de l'histoire de la musique, souligne non sans une certaine admiration le contre-ténor Franco Fagioli. Le jeune chanteur argentin, découvert en France en 2012 lors de la résurrection de l'opéra pour castrat « Atarsers » de Leonardo Vinci, est sans doute le seul capable aujourd'hui de se mesurer à la légende de Gaetano Majorano, dit Caffarelli. Ces aigus proprement jubilatoires qui n'ont à certains égards rien à envier à ceux de bien des sopranos, la puissance de son timbre et son très vaste ambitus, combiné avec une aisance dans les vocalises assez saisissantes, font immédiatement mouche dans les airs de Porpora, As, Léo, Vinci ou encore Caffaro, auxquels le castrat avait emprunté son nom de scène, composèrent pour lui. À sa manière, Caffarelli incarnait aussi le premier divo de l'histoire de la musique. Mais si Fagioli se fond si bien dans le costume de scène de son illustre prédécesseur, c'est aussi parce qu'il le connaît à fond. Cherchant, pour les besoins de son premier album solo chez Naïve, paru en 2013 à en percer les mystères. « C'était un personnage plus complexe que la caricature que l'on s'en est faite », explique-t-il. Imbuvable et arrogant, il avait la réputation de pincer ses collègues au milieu de leurs airs, de provoquer ses librettistes en duel et de multiplier les aventures avec des femmes. Mais en même temps, c'était un perfectionniste, un travailleur acharné, capable de passer des semaines sur une même feuille d'exercice, comme le lui avait enseigné son maître Porpora. C'est bien Porpora, la figure tutélaire dominante de cette Naples baroque, dont on dit qu'elle put produire au cours du XVIIIe siècle jusqu'à 3000 enfants castrats par an pour les besoins de ses théâtres, mais aussi de ses 400 églises et 70 monastères. C'est ce dont témoignera une large part de ce Versailles Festival 2015. Outre le récital que Fagioli dédie à Caffarelli à l'Opéra Royal le 9 juin, la manifestation permettra d'entendre dans cette même salle, en première mondiale, du 16 au 21 juin, un autre chef-d'œuvre de Leonardo Vinci oublié, Catone in Utica. composé pour un plateau exclusivement masculin. Une résurrection que l'on doit à Max Emmanuel Sansik et à sa société de production Parnassus, déjà à l'œuvre dans Artaxerce. Elle le réunira sous la baguette de l'excellent Riccardo Minasi et dans une mise en scène inspirée de la Belle Époque, quelques-uns des meilleurs contre-ténors d'aujourd'hui. Sansik, bien sûr, mais aussi Fagioli, Valère Sabadus ou encore Vinch Yi. Les deux événements succéderont aux représentations du 4 au 7 juin du Cerce de Handel, dernier grand opéra italien de Handel à Londres, composé pour Caffarelli. Cette fois, c'est une mezzo-soprane, Malena Herman, qui se mesurera à la légende dorée du castrat napolitain, sous la baguette de Jean-Christophe Spinozzi et dans une mise en scène de Lars Rudolfsson, fondateur de l'avant-gardiste théâtre Orion de Stockholm.
Oh.
France Guimard-Roche vous retrouvera à Versailles pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée par Roland Richard et réalisée par Émilie Glory dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.
Generation.